voulez vous faire le point, vous parler d'actualité de notre point de vue, des combats qui nous entourent, des prochains événements de notre réseau. Le tout sous forme de chroniques et de billets d'humeur libres dans ce qu'on a appelé les chroniques du taf au fumoir. Avec Anne, Fabienne et Raphaël. Bonne écoute.
Cette année, nous avons invité ce qu'on appelle des experts du vécu, c'est-à-dire des gens qui vivent les situations qu'on évoque dans nos différents podcasts, productions écrites, émissions. Nous avons ainsi invité Laurent Dursel, qui est cofondateur et co-directeur de Douche Flux. Nous avons donné la parole à des artistes abandonnés pendant la crise sanitaire. Nous avons invité Latifa Elmkabeni, qui est porte-parole du collectif des Madres qui lutte contre les violences policières. Nous avons invité Robin, qui est un sans-papier en lutte pour la régularisation. Et on a décidé aujourd'hui de vous donner des nouvelles de tous ces gens-là, des nouvelles qui malheureusement sont pour la plupart assez mauvaises. Raison de plus sans doute pour en parler aujourd'hui. Nous allons ainsi tenter de joindre Latifa du collectif des Madres pour nous donner des nouvelles de ces combats. Raph va vous parler des suites données ou pas d'ailleurs à la mort d'Ilyes Abedou, qui est un sans-papier qu'on a retrouvé mort après une arrestation. On l'a retrouvé mort dans sa cellule. Il vous parlera aussi de notre prochain festival de musique et des raisons pour lesquelles on le fait. Et on terminera avec Fabienne, qui, comme on l'a dit l'autre fois, est bénévole pour toutes sortes de causes et de projets et se pose aujourd'hui bien des questions sur son investissement et sur l'intérêt qu'on porte aux uns et qu'on ne porte pas aux autres. Et c'est à moi qu'il revient de vous donner des nouvelles des sans-papiers en lutte pour une régularisation. Pour rappel, les sans-papiers, ce sont des gens qu'on croise tous les jours, ce sont des gens qui préparent nos repas du resto, ce sont des gens qui nous servent nos bières, ce sont des gens qui rénovent nos maisons, ce sont des gens qui nettoient nos bureaux, etc. Ce sont pour beaucoup des gens qui travaillent au noir pour le plus grand plaisir de leur patron, qui n'ont aucune couverture sociale, qui ces derniers mois pendant la crise Covid n'ont eu aucune protection tout court puisqu'ils n'existaient pas, alors que pourtant ils existent, on le sait tous, nos dirigeants politiques le savent aussi, mais ils ne s'en souviennent bien souvent qu'à la veille d'élections, quand il faut caresser certains électeurs dans le sens du poil. Le combat des sans-papiers, il est mené depuis des années et des années et des années, depuis même des décennies. Il revient régulièrement parce que la situation ne s'arrange jamais. Et il est mené depuis quelques mois par un collectif qui était représenté ici par Robin, qui est venu témoigner de tout ce qu'il faisait. Il s'agissait alors de pétitions, de manifestations, d'occupations, autant de combats menés pacifiquement, poliment, gentiment, mais quand même au péril de leur vie, puisque ces gens savent que en s'exposant, ils risquent d'être arrêtés et remballés dans leur pays. Et pourtant, tout ça n'a rien donné. Et ils sont aujourd'hui plus de 400 à faire grève de la faim, et ça depuis le 23 mai. Le 23 mai, et à l'heure où je vous parle, nous sommes le 29 juin. Il faut savoir qu'on ne survit d'une grève de la faim que 40 à 70 jours, et ça c'est quand on consomme du liquide. Certains aujourd'hui ont décidé d'arrêter de boire, certains ont décidé de se coudre la bouche. Fabienne, toi tu es allée les voir à l'église du Béguinage, où tu as été leur apporter de l'eau et du sucre. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as vu ?
Alors moi, j'y suis allée suite à une idée de collecte d'eau et de sucre d'une personne qui a créé l'association Bruxelles. Et nous avons récolté des petites bouteilles d'eau et du sucre. Nous sommes allés les déposer à l'église. Alors honnêtement, je ne suis pas vraiment entrée. Je suis restée à l'entrée de cette église où de la porte on voit des centaines de matelas, des gens couchés avec des énormes couvertures sur eux alors qu'il fait très chaud. Mais vu leur état physique suite à la grève de la faim qu'ils ont entamée depuis passé un mois maintenant, J'ai vu des gens livides, j'ai vu des gens maigres, j'ai vu des gens à bout de force. La plupart du temps, ils dorment. Et par contre, j'ai vu aussi des gens qui sont en grève de la faim, mais qui viennent tout sourire, nous aider à décharger les voitures, apporter l'eau. Et pas qu'un petit pack à la fois, hein, des kilos. Et bon, on leur dit quand même de se ménager parce qu'ils sont quand même à bout de force. Eh bien non, ils nous disent que pour certains, c'est la troisième grève de la faim qu'ils font depuis qu'ils habitent, entre guillemets, dans cette église. On leur donne de l'eau et du sucre et c'est comme si on leur donnait un trésor. Donc ils sont encore reconnaissants du minimum qu'on puisse faire pour eux.
Que des citoyens font pour eux.
Oui, que uniquement des citoyens font pour eux, effectivement.
Alors moi, personnellement, j'ai horreur des grèves de la faim. Enfin, vous me direz qui aime ça, mais pour moi, c'est un combat qu'on ne peut pas mener. On ne peut pas s'infliger une telle violence alors qu'on lutte parce qu'on l'a subi. Mais en même temps, je sais aussi que, malheureusement, il n'y a que ça qui marche bien souvent. Encore ici, on voit que le politique se met à bouger depuis, je dirais, une petite semaine. Quand je dis bouger, c'est-à-dire faire des déclarations dans les médias, appeler à des réunions d'urgence, dire qu'il faut être humaniste, dire qu'on ne peut pas tolérer ce qui se passe. Alors que ça fait des mois, rien que pour ce combat-ci, des mois que ces gens réclament toujours la même chose. Leurs revendications n'ont pas augmenté, voilà. Et tout à coup, encore une fois, on a des discours politiques qui viennent nous dire que c'est quand même important ce qu'ils demandent, quoi. Mais c'était important il y a 10 mois, ce qu'ils demandaient. C'était la même chose, en fait. Alors, on a un secrétaire d'État qui vient nous dire que ces gens, hein, bien sûr ces gens, parce que c'est toujours les mêmes, avaient déjà refusé des propositions dans les années précédentes. Ça, c'est fort commode, évidemment. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont qu'à retourner au pays. Moi, je dis qu'on n'a pas le droit de dire à des gens qui sont prêts à mourir ici pour ne pas retourner au pays, qu'ils n'ont qu'à retourner au pays. Je veux dire, ils sont en train de nous prouver qu'ils n'ont plus rien à perdre, en fait. Et ce que je ne comprendrai jamais, c'est pourquoi on attend toujours qu'il faille aller aussi loin pour reconnaître que des combats sont importants, pour que les pouvoirs publics reconnaissent que des combats sont importants.
D'autant plus que c'est des personnes qui sont souvent là depuis des années et des années. C'est ça qu'on ne se rend pas toujours compte aussi.
Totalement. C'est des gens qui sont ici, qui ont fait leur vie ici, parfois parce que leurs dossiers ont traîné et que la vie continue. Ils ont travaillé ici. Ils parlent mieux que moi, pour certains, les deux langues nationales. Mm-hmm. Et en plus, ils sont face à des politiques qui sont là depuis des années aussi et qui le savent très bien.
J'attends le soleil à travers la fenêtre, j'attends qu'il fasse clair. J'attends le soleil à travers l'air brumeux, j'attends qu'il fasse bleu. Car pour sortir de chez moi, je veux qu'il fasse mieux que ça. Le travail attendra. J'attends le soleil à travers les rideaux, j'attends qu'il fasse beau. J'attends le soleil comme un jeune amoureux, attends qu'il fasse deux. Car pour sortir de chez moi, je veux qu'il fasse mieux que ça. Le labeur attendra. Je veux bien rester comme ça, toute la journée comme ça. Je veux bien bosser, mais voilà, la vie n'attend pas. La vie n'attend pas, la vie n'attend pas. Ah, ah. soleil à travers le mystère. J'attends mon désert. J'attends le soleil à défaut d'avoir découvert ce que je veux faire. 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 Et si c'était juste rester là en ouvrant grand les bras. Juste rester là en ouvrant grand les bras. Juste rester là en ouvrant grand les bras.
Bonjour Latifa et Julia, merci d'avoir accepté que l'on prenne un peu de votre temps. Vous êtes dans le noyau du collectif des Madrés. Nous avions déjà eu l'occasion de discuter lors du premier épisode du Taf au fumoir, qui avait été enregistré en décembre dernier. Est-ce que vous pouvez rapidement décrire le collectif pour les personnes qui ne le connaissent pas ?
Ben, le collectif, c'est un groupe de mamans. La mission du collectif, ben, c'est de lutter contre les discriminations. Contre les discriminations au niveau de la jeunesse et aussi contre les violences policières ici à Saint-Gilles.
Oui, on peut peut-être dire, peut-être rajouter que le collectif des Madrés a été fondé en 2018 et a été rejoint au fur et à mesure de son histoire par des travailleurs sociaux, des habitants de Saint-Gilles, et aujourd'hui son action dépasse le territoire de la commune de Saint-Gilles et s'étend sur tout le territoire de la région de Bruxelles.
Donc c'est plus que Saint-Gilles, ça a changé par rapport à décembre ou c'était déjà le cas ?
Bah, disons que le collectif, les missions principales du collectif concernent une brigade saint-gilloise, mais qui depuis le début en fait était présentée comme un projet pilote qui serait un modèle pour toute la région. Mmh. Donc, depuis le début, il y avait un enjeu qui dépassait celui de la commune. Donc le combat à Saint-Gilles s'inscrivait dans un combat plus large sur qu'est-ce que c'est que les modèles de police de proximité qu'on nous vend, on va dire, dans la région. Et donc en ça, depuis le début, c'était un combat qui dépassait la commune de Saint-Gilles. Mais après, concrètement, les revendications du collectif s'inscrivaient d'abord sur le territoire de Saint-Gilles. C'est-à-dire, donc, au début, la publication du rapport du délégué général aux droits de l'enfant, qui est sorti dans la presse en 2018, une évaluation indépendante de la brigade du NEUS, et ça on peut en venir parce que ça entre-temps il y a un cahier de charge qui circule, sur lequel voilà, on est en train de travailler. Et enfin, toute la question du contrôle démocratique de la police et donc la question de l'impunité et du fonctionnement ou non de la justice.
Et donc le collectif des Madrés, ça représente combien de personnes et quel genre de personnes ?
Bah, le collectif, bon, c'est surtout des mamans, mais on a un peu de tout hein, dans le collectif. On est combien, Julia ?
Bah, je dirais qu'on est une vingtaine avec un noyau dur d'une petite dizaine. Voilà.
Donc vous parlez des objectifs de la brigade du NEUS, dont on a aussi parlé en décembre lors du premier épisode. Comment la situation a évolué ? Tu en as parlé un peu, Julia, depuis cette quatrième interpellation, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont évolué ?
Cinquième.
Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué depuis ?
Bah justement, il y a le cahier de cherche, donc l'évaluation de la brigade Unis, elle va se faire à partir de fin septembre, je crois. Parce qu'ils sont en train de chercher quelqu'un, un expert qui pourrait le faire de façon externe.
D'après les informations qu'on a, ce serait une évaluation qui se tiendrait pendant un an à partir de janvier 2022. On ne sait pas ni qui sera sélectionné, ni comment l'organisme sera sélectionné. On s'interroge d'ailleurs sur les différents organes qui sont censés accompagner le processus de sélection et accompagner l'évaluation. On a l'impression que la société civile est complètement sous-représentée, en fait. Et donc, voilà, il y a encore beaucoup de questions ouvertes qui, effectivement, pourraient mériter une nouvelle interpellation citoyenne. Mais là, voilà, on se laisse le temps de voir avec tous les autres collectifs concernés qui nous ont accompagnés pendant tout ce temps pour faire ça de manière collective.
Donc, ça, c'est une excellente nouvelle.
C'est une excellente nouvelle. Il y a aussi une motion je ne sais pas si on l'a dit, une motion comme quoi on reconnaît que les violences policières existent.
C'est une motion qui a été votée par l'ensemble du conseil communal.
C'est quelque chose, c'est aussi une petite victoire. On reconnaît qu'il y a des violences policières qui existent. Et puis, on a aussi fait une marche blanche le 9 mai qui représentait la fête des mères, qui est pour moi très symbolique, qui représente bien notre lutte, nous en tant que mères, pour nos enfants. Et on a eu quand même plus de 150-200 personnes. Donc pour moi, c'est aussi une grande victoire.
La marche blanche le 9 mai a été un moment très important, symbolique et très important, surtout en sortant de la pandémie. Je pense que quand on était chez vous en décembre, on avait fait état un peu de tous les abus qui se sont rajoutés pendant la période de la pandémie, des amendes abusives, etc. Donc une forme de répression qui ciblait là encore particulièrement les jeunes dans les quartiers populaires. Et donc là, le fait de pouvoir sortir dans l'espace public, de faire une marche blanche qui finalement était un rassemblement sur le Mont des Arts, où il y a eu des prises de parole, une dizaine de prises de parole d'artistes, de rappeurs, de mamans, de jeunes sœurs, de militantes, de plusieurs collectifs qui ont rejoint aussi le collectif des Madrés entre-temps. Ça a été un moment très important de pouvoir se réunir à nouveau et de pouvoir inscrire l'action citoyenne dans l'espace public et dans la rencontre, et non plus comme ça a été le cas pendant la pandémie, de devoir rester chacun chez soi.
Mais à vrai dire, ce qu'on voulait faire, c'était une marche, donc une vraie marche de Hannessen jusqu'à De Broekhere, et puis là, des prises de parole au Théâtre de la Monnaie, et ça n'a pas été accepté. Donc on a dû faire une marche, je veux dire, plus une mobilisation sur place. C'est où encore le lieu, Julien ?
Le Mont des Arts, ouais. Place Albertine, le Mont des Arts.
Comment est-ce qu'on peut soutenir le collectif ? Comment est-ce qu'on peut vous suivre ?
Moi, je trouve que la meilleure façon de nous soutenir, c'est d'être là dans les mobilisations, dans les interpellations. Le fait d'avoir des présents de citoyens un peu partout, ça a un impact énorme. Donc, pour moi, soutenir le collectif, c'est d'être présent dans toutes les mobilisations, les interpellations.
Et comment est-ce qu'on peut
aussi de voir le reportage de Zine TV et de PlaceNet et d'en parler autour de vous. Mais ça, Latifa, ouais. Je pense que tu peux en parler mieux que moi.
On essaye justement, PlaceNet, on essaye de reprendre le collectif, on essaye de faire tout un travail de nouveau avec le film PlaceNet. On voudrait le diffuser en dehors de Saint-Gilles parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le diffuser à cause du Covid. Donc on voudrait refaire la diffusion de PlaceNet, pouvoir utiliser PlaceNet en tant qu'outil pour pouvoir faire des débats sur la gentrification dans les quartiers, les violences policières, comment justement lutter dans son quartier politiquement. Donc tout ça, on voudrait remettre en avant et on commencera à partir de septembre.
Mais j'étais en train de me dire, quand tu disais comment est-ce qu'on peut soutenir ou qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut soutenir le collectif ou suivre le collectif, là, tu avais très bien parlé aussi de tout ce qui touche aux sensibilisations dans les quartiers, aux formations des travailleurs sociaux. Et donc là, il y a l'expérience aussi du collectif qui peut servir en fait dans d'autres quartiers.
C'est vrai, maintenant tu me fais penser. Moi, je me dis, la façon de soutenir, c'est de relayer le collectif de Matré dans les autres communes, de pouvoir outiller les autres communes, par exemple Mille Bruxelles, avec ce qui s'est passé au mois de janvier avec les jeunes, qu'ils ont été pris, les 40 jeunes. Ils ont voulu faire une interpellation et ils n'ont pas osé parce qu'ils n'étaient pas outillés, ils avaient peur des représailles. Et je me dis que justement, il ne faut pas avoir peur, que je veux dire, nous, on est là, le collectif, pour soutenir justement les autres mamans des autres quartiers, faire aussi un travail dans les maisons de jeunes, voir comment justement avec la Ligue des Droits Humains former les jeunes, leur donner les droits et tout ça. Je veux dire, tout ce qu'on fait ici à Saint-Gilles, c'est justement l'outil de base même pour pouvoir aider les autres quartiers. Parce que nous, ici à Saint-Gilles, ça commence à changer. Je veux dire, on a dans les mobilisations, on n'a pas que notre communauté, mais on a toute une catégorie de citoyens, mais vraiment une mixité vraiment incroyable. Je veux dire, même ceux qui ne subissent pas les violences policières, ils sont là dans les mobilisations à nous soutenir et tout. Et je me dis que faire tout un travail dans les autres quartiers, à Molenbeek, à Anderlecht, Forêt et tout, c'est comme ça qu'on arrivera à combattre les violences policières. Donc je trouve que c'est important de pouvoir relayer tout le travail qu'on fait. C'est pour ça justement qu'on essaye de créer ce site pour que les gens puissent avoir accès à ce site et mieux comprendre c'est quoi le collectif des matrées, que c'est pas que des mamans, c'est tout un travail sur le terrain qui se fait avec des institutions, des travailleurs sociaux, des mamans, des papas, parce qu'on oublie aussi les papas, il y a aussi les papas dans le terrain qui nous aident et tout. Faire des débats, des films, je fais beaucoup de choses en parallèle sur tout ce qui est incarcération. Donc montrer aux mamans que le fait que leurs enfants font de la prison, ben c'est la vie s'arrête pas là, qu'il faut reconstruire tout un travail psychologique, les impacts des violences policières psychologiques. Je crois que tout ça, c'est ce qui représente tous les collectifs de Madrid, le cinéma, la musique, les slams. C'est ce qu'on a montré justement dans la marche, dans la mobilisation du 9 mai. Voilà, les violences policières, c'est pas que les violences policières, c'est aussi comment s'exprimer, c'est aussi expliquer sa souffrance sous forme de slam, sous forme de poète, sous forme de cinéma. Je veux dire, c'est une chose que j'arrête pas de dire dans les débats et tout. Et c'est super important. Voilà, pour faire une société juste, ben, il faut un peu de musique, il faut un peu de slam, un peu de poème, un peu de tout pour pouvoir combattre. Ça doit pas être vraiment radical, ça doit vraiment avoir une harmonie pour pouvoir combattre toute cette injustice et toute cette haine et violence, quoi.
Donc merci beaucoup Latifa et Julia pour vos réponses et on vous souhaite beaucoup de bien pour la suite, des choses positives comme cette petite victoire du cahier de charge. Quant à nous, nous allons rester dans le thème des violences policières puisque nous allons rencontrer Benjamin Brooke pour nous parler de l'affaire Iliès, qui a un nom moins médiatisé mais qui s'ajoute à l'insupportable liste des victimes de ces dernières années.
Donc bonjour Benjamin Brooke et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Pour vous resituer rapidement, vous êtes ici en tant que co-directeur de Doucheflux. Pouvez-vous rapidement décrire votre association ?
Alors Doucheflux, en fait, on est un service d'accueil de jour pour personnes sans chez soi, d'ici ou d'ailleurs, avec ou sans papier, qui en deux mots peuvent avoir accès à différents services, que ce soit évidemment la douche pour laquelle on est le plus connu, mais plein d'autres choses, des consignes, des lessives, voire des assistantes sociales, voire une psychologue, une infirmière, participer à une de nos très nombreuses activités. Et voilà, on a aussi un axe plus militant, un axe plaidoyer sensibilisation sur la problématique de la grande pauvreté, voilà.
Donc, merci. Je vais revenir sur des faits qui sont passés en janvier. Donc, en janvier, un usager de chez vous, à Doucheflux, Iliès Abedou, a été retrouvé mort après un séjour au commissariat de la gare zonale de Paulbru, dans des conditions qui restent assez floues. Donc, des policiers auraient notamment affirmé qu'il aurait été oublié en cellule. Pouvez-vous un peu nous parler des faits du point de vue de Doucheflux et de votre point de vue ?
Ben, on ne sait pas grand-chose, nous non plus, de cette affaire. C'est ça qui a fait aussi qu'on a mis un peu de temps à réagir, parce que on a, nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu, dans les jours, le lendemain des faits, on a eu un autre usager, un copain d'Iliès qui est venu nous voir, qui le cherchait partout. Et puis, entre-temps, ben, on avait vu l'info dans les médias, donc on a vite fait le rapprochement. Et donc, voilà, nos assistants sociaux ont dû prévenir son copain qui ne reverrait plus Iliès. Donc, ça a été un peu compliqué, surtout pour son entourage proche qui avait assez peur. Et donc, voilà, ça a créé un sentiment un peu de, voilà, d'anxiété au sein de notre public. Et puis, ben, comme tout un chacun, on a vu ce qui était sorti un peu dans les médias et on a trouvé qu'effectivement, il y avait très très peu d'éléments, pas grand-chose, que ce qu'on lisait, c'était qu'effectivement, il avait reçu un repas le matin et puis qu'en fait, il a été oublié, entre guillemets, en cellule jusqu'à ce qu'on le retrouve décédé le soir. Et on s'est dit, bon, ben là, ça paraît particulièrement obscur, donc ça demandait qu'on aille un peu plus loin dans nos démarches.
Plus loin, vous êtes avec la Ligue des droits humains, constituée partie civile pour l'affaire. Donc, quelle était la motivation derrière cette décision et qu'est-ce que ça implique concrètement pour vous ?
Donc nous, c'était vraiment une première pour nous. Et puis, on s'est dit que finalement, dans cette histoire, il y avait assez d'éléments qui nous interpellaient. Donc, il y avait effectivement le lien direct avec Doucheflux, étant donné que c'était un usager de chez nous. Mais voilà, il y a aussi un contexte au niveau de, et particulièrement qui s'est encore aggravé pendant la crise Covid par rapport à notre public et les violences policières, ou en tout cas voilà, un climat un peu délétère en rue entre la police et les personnes sans abri. Et puis bon, ici, bah, sans insinuer rien du tout, parce qu'on ne connaît rien au fait, on trouvait qu'effectivement il fallait que toute la lumière puisse être faite. Voilà, comme on n'était pas certain que sa famille se constitue partie civile, étant donné qu'ils étaient loin, qu'ils avaient peu de moyens, ben, c'est pas parce que c'est une personne effectivement sans papier ou sans titre de séjour légal ici en Belgique qu'il n'a pas droit à toute la lumière sur cette histoire, etc. Donc c'était plus au niveau symbolique. Et puis là, pour nous, c'était très important de pouvoir s'appuyer sur un acteur qui a vraiment une expertise là-dedans. Donc c'était vraiment une première, et nous on a trouvé ça quand même voilà, symboliquement fort qu'on s'associe à la Ligue qui eux ont évidemment une plus grande connaissance de ce genre d'affaires. Et pour nous, qui sait, ça deviendra peut-être peut-être qu'on va avoir maintenant ce réflexe en tant qu'association de se constituer partie civile ou de demander que toute la clarté puisse être faite sur ces différents faits qui concernent souvent notre public. Et voilà.
Et quelle est la suite de l'affaire pour l'instant? Est-ce qu'on est en attente? Qu'est-ce qui se passe concrètement?
Ben donc nous, on va pouvoir avoir accès au dossier et donc être un peu plus au courant que ce qu'on a lu dans la presse, donc voir un peu... voilà, de quoi on dispose. Il était effectivement, est-ce que ces faits sont exacts? Est-ce qu'il y a normalement dans les cellules il y a des caméras de surveillance? Donc est-ce qu'on peut avoir accès à ces caméras qui peuvent quand même donner une partie d'explication? Pourquoi est-ce que il n'y a plus de signe dans le rapport qu'il y ait eu d'autres repas? Qu'est-ce qu'a donné l'autopsie? Voilà, est-ce qu'il y a eu une intervention d'un tiers ou pas? Est-ce qu'il était sous influence, etc. C'est toutes ces questions qui se posent et qu'on espère qu'on y verra plus clair en ayant accès au dossier, quoi. Et là, on saura un peu plus comment on avance dans cette histoire, s'il y a vraiment matière à aller chercher plus loin et demander des expertises complémentaires, etc. On est au début de la démarche.
Est-ce qu'il y a un moyen pour le grand public, entre guillemets, de vous aider sur cette affaire en particulier?
Ben nous, en tout cas, on a lancé un appel aux dons, parce que évidemment la question du financement était aussi un frein. Ça coûte, selon l'endroit jusqu'où on va dans la procédure, ça peut coûter une certaine somme d'argent que, voilà, en tant qu'association, on n'a pas forcément. Donc nous, on compte comme toujours sur notre réseau de sympathisants au sens large qui nous soutient depuis la création de Doucheflux, qui est vraiment l'ADN même de Doucheflux. Et donc on a lancé cet appel aux dons pour financer les frais d'avocat.
Ouais, bien, merci beaucoup Benjamin. C'est déjà un peu la fin pour nous. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Je pense notamment au fait que c'est assez nouveau de se constituer partie civile pour une association, pour un membre du public.
Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Donc ça pourrait créer un précédent, mais en tout cas, ça nous paraissait essentiel de pouvoir défendre ce public qui n'a pas toujours, malheureusement, la possibilité de se défendre. Donc nous, on se tient aux côtés de nos usagers. C'est ce qu'on souhaite faire, en tout cas.
Merci beaucoup.
bon équipe, il y a autre chose.
Donc voilà, on en arrive à la fin de cette émission qui était heureusement égayée un petit peu par du bon son. On va passer la parole à Fabienne. Fabienne, toi tu es notre chroniqueuse attitrée. Il faut savoir que tu es bénévole à l'Arc, c'est comme ça qu'on se connaît, nous deux, fin vie à 2,50 €. Mm-hmm. Je tiens quand même à préciser avant que tu n'interviennes que tu es active bénévolement dans tous les mouvements que tu vas évoquer ici et que tu n'es pas suspecte de favoritisme. Voilà. Ah non. Donc vas-y, on t'écoute.
Du favoritisme, c'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas où aller donner ses faveurs. Il y en a tellement. Donc j'ai commencé en étant bénévole à 2,50 €. C'est une association qui prépare des repas pour les migrants. Ça fait plus de 3 ans que je fais ça, alors que logiquement ça ne devait pas durer plus de 6 mois peut-être. Et puis de fil en aiguille, ben, j'ai connu une association qui s'appelle le Bruxelles, qui a été créée pour s'occuper de la précarité des femmes et qui récolte des protections périodiques. Et il y a peu de temps, on s'est investi un petit peu aussi pour les sans-papiers, ceux qui logent dans l'église du Béguinage et qui sont entrés en grève de la faim depuis plus d'un mois. Et là, nous avons décidé de collecter des bouteilles d'eau et du sucre, seul aliment qu'ils acceptent d'avaler. Et il y a quand même quelque chose là, en faisant tout ça, qui me perturbe un petit peu, parce que je pense que depuis le temps que je fais partie des bénévoles sur le terrain, J'ai l'impression que les citoyens s'investissent plus pour certains que d'autres. Je peux me tromper, hein, mais quand je vois les efforts qui sont faits d'un côté et l'ignorance totale qu'il y a de l'autre, je ne comprends pas. Mmh. Et je trouve ça un peu injuste parce qu'un être humain, qu'il ait faim, qu'il ait soif, qu'il soit malade, qu'il soit à la rue sans rien, je ne comprends pas pourquoi on s'investit pour en nourrir, en loger, et qu'on en laisse d'autres dans l'ignorance totale et qu'on en laisse mourir. Mmh. Puisque la seule façon qu'ils ont de se faire connaître, entre guillemets, c'est d'intenter des actions... limites dangereuses pour leur santé, enfin même pas limites, qui sont dangereuses pour leur santé. C'est vrai que s'investir bénévolement, ça ne demande pas forcément de l'argent. On peut faire des dons si on n'a pas le temps. Moi, je me cantonne à donner de mon temps. Et je me pose des questions parce que je trouve que c'est injuste. C'est peut-être pas le bon mot. De favoriser certaines causes par rapport à d'autres, alors que logiquement, le résultat devrait être identique partout. C'est aider des gens qui ont besoin de boire, de manger, de se loger, de s'habiller, de se soigner. Et on donne la possibilité, je trouve, plus à d'autres. Et j'aimerais, moi, mais c'est utopique, qu'il y ait un juste milieu pour tout le monde.
Mmh. Moi, j'ai peut-être... trois petits débuts d'explication, enfin deux en tout cas, au fait que c'est peut-être plus facile d'aller vers une cause que vers l'autre, parce que d'une part, il y a le discours politico-médiatique autour des bons pauvres et des méchants pauvres.
C'est ça.
Ça, c'est déjà une chose. D'autre part, il y a aussi le fait que, de ma petite expérience sur le terrain, les gens se mobilisent volontiers quand on est très précis sur la demande, en fait. Donc, les gens sont souvent très contents de savoir comment ils peuvent aider et de savoir que c'est à leur portée, c'est-à-dire héberger un migrant, amener du pain, amener de l'eau, tu vois. Mm-hmm. Dans le cas des sans-papiers ici, on est dans une interpellation politique. Et donc, c'est plus compliqué pour les gens. Ils ne savent pas trop quoi faire et comment le faire. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, surtout, c'est pourquoi est-ce qu'on abandonne ces causes-là à des citoyens ? Et donc, en fait, le grand coupable de tout ça, c'est le pouvoir politique, en fait.
Oui, de toute façon, toutes ces associations dont je fais partie ont été créées par les citoyens. Mmh. Les politiques n'ont jamais soulevé le problème et les associations sont nées de la prise de conscience de certains citoyens qui ont créé des associations. On ne survit qu'avec les dons des citoyens et l'investissement du citoyen. On n'a pas un euro d'un parti politique ou de l'État ou de quoi que ce soit. Mmh. Et malheureusement, le bénévolat s'essouffle. Mmh. Aussi bien financièrement parce que les gens, suite à la crise, bon ben on a tous des difficultés. Et sur le terrain, parce que dans la durée, les gens se fatiguent, les gens s'épuisent et il n'y a pas de résultat concret, il n'y a pas de solution présentée autre que celle du citoyen. Et on arrive parfois à saturer, on tourne en rond parce que on ne peut pas faire mieux que ce qu'on fait. Mmh. Et les gens sont quand même toujours dans la même demande et sont quand même toujours dans la même souffrance.
Je sais, Fabienne, que tu es venue avec une petite note optimiste que je t'invite à nous lire pour ne pas terminer en dépression totale.
Ah non, non, j'ai trouvé cette phrase sur mon fil d'actualité Facebook et ça m'a sauté aux yeux. C'est une citation, on va l'appeler comme ça, de Eddy Amir. C'est un professeur de lettres dans les quartiers nord de Marseille. Il a écrit que notre individualisme et notre insensibilité tuent beaucoup plus que tous les virus réunis. Et ce n'est pas la peine de demander à un quelconque laboratoire de nous en trouver les vaccins. Les remèdes sont au fond de chacun de nous et ils se nomment solidarité, générosité, humanité. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a, Anne?
Vous faites quoi à la fin du mois?
qui ça vous, tu veux dire toi et moi?
Oui, on organise quoi encore?
On organise un festival du 27 au 31. On va programmer une dizaine d'artistes, de groupes, de projets musicaux qui vont venir se produire chez nous. L'objectif, c'est d'offrir une scène plus petite pour les plus petits projets et soutenir ces projets financièrement, dans nos moyens. Voilà.
On va aussi être à la recherche... Enfin, on est à la recherche déjà de choses et on va être à la recherche d'autres choses.
Mais on est à la recherche d'outils numériques, donc de vieux ordinateurs, de claviers, d'écrans, etc.
Mais fonctionnels.
C'est pour donner un espace numérique à la Casa Malice. Voilà, c'est un centre d'accueil. Mm-hmm. Et aussi, d'ici fin août, on va avoir besoin de vêtements, de fournitures scolaires, etc. Et donc, vous pouvez passer les déposer tous les jours de la semaine entre 9 et 17 heures, rue de l'association numéro 20.
Si vous voulez vous informer plus avant sur tout ce dont on a parlé, on va mettre des liens sous les publications, sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, etc. Donc, que ce soit 2,50€, les actions des sans-papiers, la plateforme des migrants, Bruxelles, etc., etc. Ainsi que toutes les informations sur les événements que Raph vous a annoncés tout à l'heure.
C'était les chroniques du TAF au fumoir. N'hésitez pas à nous faire des remarques ou des commentaires sur l'émission via notre site arc-culture.be.